Préparez vos valises. Thierry Georges vous propose une nouvelle escale sonore dans Suivez le guide.
Welcome to Hong Kong. Bienvenue à Hong Kong.
Avec 7,4 millions d'habitants sur 1100 km², Hong Kong est l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. Hong Kong, au sud de la Chine, a été fondée en tant que colonie de l'Empire britannique après que la dynastie Qing a cédé l'île en 1841-42 à la suite de la défaite de la première guerre de l'opium. La colonie s'est étendue à la péninsule de Kowloon en 1860 et s'est encore agrandie lorsque le Royaume-Uni a obtenu un bail de 99 ans sur les nouveaux territoires à la fin du 19e siècle. Hong Kong a été occupé par le Japon de 1941 à 45 pendant la Seconde Guerre mondiale et cédé par le Royaume-Uni à la Chine en 1997. Hong Kong maintient toutefois des systèmes de gouvernance et d'économie distincts de ceux de la Chine continentale en vertu du principe d'un pays, deux systèmes, et possède le plus grand nombre de gratte-ciel au monde avec 554 tours de plus de 150 mètres. Ils sont nés à Hong Kong, les acteurs Jackie Chan et Bruce Lee, les réalisateurs Wong Kar-wai et John Woo.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Ce premier Suivez le guide hongkongais vous invite à rencontrer un Français de la Perle de l'Orient, Jacques Boissier, et à vivre le concert donné gratuitement en plein air en novembre chaque année par l'Orchestre Philharmonique de Hong Kong dans le port central face à 20 000 spectateurs. Nous serons dans l'ambiance du concert avec le directeur général de l'orchestre, Bénédicte Faure. Le plus simple et économique depuis l'aéroport international de Chep Lap Kok, ouvert en 1998 sur une île artificielle et succédant à Kai Tak, aux atterrissages spectaculaires rasant les toits des immeubles. Le plus simple donc pour rejoindre l'île de Hong Kong est l'Airport Express en 24 minutes très précisément.
欢迎来到香港. Welcome to Hong Kong. Bienvenue à Hong Kong.
Bonjour Thierry. Écoute, je suis Jacques Boissier, à Hong Kong depuis 30 ans et heureux d'être ici depuis 30 ans. C'est mon deuxième pays après la France.
Ouais. Enfin, Jacques, tu dis ton deuxième pays après la France. Cela dit, la France, c'est le pays dans lequel tu as le moins vécu.
C'est le pays dans lequel j'ai le moins vécu, mais c'est le
combien d'années en France ?
Peut-être 7 ans de l'ensemble de ma vie, qui est assez longue.
Ouais, donc sinon, ta vie, c'est quand même... Alors, pas juste en Asie du Sud-Est, en Afrique aussi, mais c'est beaucoup déroulé en Asie.
30 ans en Asie, oui. Et quand j'étais enfant, j'ai également
donc
vécu
on additionne.
5 ans au Japon avec mes parents, il y a dans les années 60.
Voilà, ton papa qui travaillait chez Air France, pour Air France. On se dit que forcément, quand on a un papa qui travaille chez Air France, pour Air France, on prend souvent l'avion.
Voilà, et puis on en prend l'habitude et on a envie de continuer de voyager.
Ce que tu as fait, tu as vécu en Afrique et puis maintenant, depuis une trentaine d'années à Hong Kong, ton activité professionnelle, alors tu t'es mis en retrait, mais tu as développé une très très belle affaire dans le F&B Food and Beverage.
Oui, l'importation et la distribution de produits alimentaires, principalement français et haut de gamme, pour les hôtels et restaurants et la grande distribution.
Ce qui fait que tu vis à Hong Kong en Asie depuis longtemps, mais tu n'étais pas coupé du tout de la culture française et de la gastronomie française. Absolument. Et même si tu allais probablement régulièrement en France, mais c'était beaucoup les Français qui venaient à toi.
Tout à fait, on a toujours reçu énormément de Français ici, tous les fournisseurs, soit de très grosses entreprises, par exemple, je ne sais pas si je peux les nommer, Lactalis, que l'on distribue ici, donc vraiment des entreprises majeures, ou des artisans de très haute qualité. Je pense Pierre Oteza dans le Pays Basque.
Oui, parce que c'est Pierre qui m'a mis en contact avec toi, c'est grâce à Pierre que je suis face à toi aujourd'hui à Hong Kong.
Oui, comme quoi il peut faire des erreurs.
Hein. Depuis le Pays Basque, depuis le fin fond du Pays Basque dans la vallée des Aldudes, grâce à Pierre, je te rencontre à Hong Kong. Donc effectivement, et des artisans de talent. Hein.
Absolument. Pierre Oteza, il fait des produits absolument exceptionnels, qui sont connus en France, mais qui aujourd'hui commence à être découvert par les professionnels en Asie et apprécié.
Peut-on en déduire que les Hongkongais sont gastronomes?
Alors les Hongkongais adorent la nourriture. Tu le vois dans toutes les rues où tu passes, il y a des restaurants absolument partout. Les gens mangent dehors et mangent une nourriture très très diverse. Déjà la culture chinoise, c'est comme une culture culinaire française, c'est par région, avec des spécialités régionales. Ils adorent se mettre à table et rester à table autour de la table et partager les plats.
Kanpai.
Voilà. Il y a une culture de partage des plats. C'est-à-dire qu'en France, on va servir des portions individuelles à chacun. Ça n'existe pas dans la cuisine chinoise. On met un plat au milieu et chacun se sert. Et on va manger 13, 14, 15, 16 plats différents pendant le repas. Et ils adorent la nourriture.
Mais c'est vrai qu'en France, il y a quelques décennies, on ne mettait pas les plats au centre et chacun se servait dans le plat. Mais le service à l'assiette était moins répandu qu'aujourd'hui. Le serveur apportait le plat et chacun se servait dans le plat, dans son assiette. Hein.
Alors, tout à fait. Et maintenant, on commence à revoir ce service de plat à partager. À Hong Kong, il y a quelques restaurants français qui, pour les plats principaux, font des plats à partager. Et avec succès, parce que les Chinois savent ce que c'est.
C'est ça, davantage ici. Bon,
alors, ils n'ont pas peur de la carte. S'ils voient une carte, il faut choisir une portion individuelle, ils ne sont pas à l'aise.
En revanche, pour les chefs, et notamment les chefs des grandes tables et des tables étoilées, le service à l'assiette permet la créativité dans la présentation du plat.
Absolument, donc c'est, on ne va pas imaginer...
Des œuvres d'art.
On ne va pas imaginer des plats à partager chez eux.
Mas não esquece que amanhã é um dia de voo pro Japão. Não se despede porque nesse verão vamos ir pro final. Jogos de artifício em Nagoya, pés na areia mesmo sem ser minha praia. Sem ligar pra fama.
Alors, dans quel quartier de Hong Kong nous retrouvons-nous?
Alors,
il faut dire qu'à Hong Kong, il est très difficile de savoir où nous sommes quand on est dans une rue avec des tours tout autour de nous. Hein.
Hong Kong, c'est tout petit en réalité. Donc, il y a une densité très forte qui se fait de façon verticale. Il y a des tours absolument partout. Un bâtiment de 25 étages, c'est un petit bâtiment sur l'île de Hong Kong. Donc là, on est sur l'île de Hong Kong, dans un quartier qui s'appelle Sheung Wan, juste à côté de Central. Central, c'est le centre des affaires, plutôt financier, et de shopping de luxe. Et puis Sheung Wan, on arrive tout de suite dans des quartiers où on se mélange la tradition chinoise. Là, on est à côté un magasin de thé où on peut déguster du thé très traditionnel. On va retrouver des petits commerces de nourriture traditionnelle chinois, donc des produits séchés, beaucoup des produits de la mer, etc. Et tout ça à 20 mètres d'un bâtiment qui va être ultra moderne et occidental.
On peut s'initier à la dégustation du thé ou des thés comme on peut s'initier à la dégustation des vins.
Absolument. Alors, il y a un thé particulier chinois qui s'appelle le Puo Tea, qui sont des galettes de thé fermentées que l'on fait vieillir. Alors, on peut en avoir de 30 ans, 50 ans d'âge. Et tu dégustes tes thés. Bon, il y a tout un art de comment les préparer, comment les...
Donc, comme au Japon, la cérémonie du thé.
C'est un peu la cérémonie du thé, mais en moins formelle. Mais on se retrouve tous autour d'une table. Tu en vois là celle qui est au fond, par exemple. Et puis, il y a quelqu'un qui va préparer le thé pour tout le monde. Alors, il faut savoir nettoyer le thé, d'abord. Le passer deux fois dans des tout petits pots à thé. Et puis, on déguste ensuite dans des tout petits verres. Et c'est intéressant, c'est de comparer différents thés. Exactement comme le vin.
Si on peut avoir un budget vin en France ou ailleurs, on peut avoir un vrai budget thé aussi, parce que je suppose que ces vieux thés, etc., c'est pas donné. Hein.
Les thés de 30 ans d'âge ou d'autres, un bon poueux peut être plusieurs milliers d'euros pour 200 grammes. Hein.
Ah oui, donc c'est de la Romanée Conti.
Oui, moi je suis plutôt dans le Bordeaux. Donc on va parler de Château Margaux, par exemple.
Par exemple, effectivement, donc l'équivalent.
C'est passionnant de se retrouver avec des gens qui sont spécialistes du thé à faire des dégustations. On est vraiment dans la même culture que le vin ou même au Japon, le saké.
Les sakés. Or là c'est vrai que nous, souvent, étrangers, quand on arrive, si on goûte des sakés, pas juste au Japon, on n'est pas séduit d'emblée. Hein.
Non, mais c'est un tort. Alors, oui. En Chine, il y a des vins aussi chinois. On passera peut-être tout à l'heure dans les boutiques de Maotai. Ce sont des choses que nous, on n'aime pas beaucoup, mais qui sont extrêmement appréciés en Chine, qui coûtent très très cher. Là, on est sur des prix, tu parlais de Roman et Conti, on est sur ce type de prix, sur des vieux Mao Tai qui se boivent avec, non pas par soi-même, mais va se boire avec au milieu d'un repas. Hier soir, j'étais à dîner avec des amis chinois. Tout le monde est arrivé avec des bouteilles de vin rouge. Et il y en a un qui est arrivé...
avec des Bordeaux, alors.
Moi, j'étais avec des Bordeaux. Et quelqu'un qui est arrivé avec une bouteille de Mao Tai, qui coûtait aussi cher que les vins que l'on avait. Et puis, qui a partagé... J'ai du mal à le boire.
Parce que c'est comment...
C'est fait à partir de plantes et de l'alcool fort. Donc, quand c'est jeune, c'est très fort en alcool. Quand c'est vieux, c'est comme un vin, ça vieillit. Et à ce moment-là, on a tous les arômes qui sont... C'est pas désagréable, mais c'est très herbeux. C'est très médicamenteux pour nous.
Ah ouais.
Donc c'est un peu dur à associer avec des plats.
Bon, mais il faut quand même garder le sourire.
Oui.
En revanche, l'été, on peut les déguster sans modération. Après, il faut se repérer ici.
Alors, on va rentrer dans des petites rues pour essayer de voir un peu plus ces...
Sinon, sur cet axe, on retrouve les vieux trams qui continuent à circuler. Je l'ai regardé, ils sont très étroits, finalement, ces trams. Hein.
Ils sont très étroits, ils sont...
À deux étages,
hein. Très vieux.
Double comme les double
deux étages. Il n'y a pas de climatisation. Il faut savoir que ces trams appartiennent à une société française. Je crois que c'est une filiale de la RATP. Enfin, je ne crois pas, c'est une filiale de la RATP qui est propriétaire de la société des tramways de Hong Kong. Et lorsqu'ils ont racheté, ils ont voulu moderniser ces trams. Et là, il y a eu une levée de bouclier de tout le monde. Ils disent, non, il faut que ça reste traditionnel. Et c'est un tram qui fait toute la longueur de l'île de Hong Kong et que les gens prennent, il y a des arrêts partout. Facilement, ça coûte, c'est très très bon marché. C'est le moyen de transport populaire, très différent du métro qui, lui, est très sophistiqué. Et puis c'est aussi un truc touristique, mais les gens veulent garder cette tradition du tram.
Ils veulent garder, je suppose aussi, même s'il y a le métro qui est très efficace, garder le Star Ferry, ce ferry entre Kowloon, la péninsule et Hong Kong.
Oui, c'est pas que pour les touristes. Hein.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour traverser d'un côté à l'autre. Là, on est sur des bateaux qui étaient pré-tunnels. Donc les gens, c'était le moyen de transport entre Kowloon.
Oui, c'était le, il n'y en avait pas d'autres.
Il n'y en avait pas d'autres. Il y avait des barges pour en transporter des marchandises, des véhicules. Et puis c'est resté dans la tradition. Ils ont déplacé, parce que tout le monde a regagné du terrain sur la mer, mais ils ont toujours gardé ce ferry entre les deux.
Donc ça prend 5 minutes, hein, ouais. Ferry la traversée, et une minute en métro. Mais c'est le charme de Hong Kong aussi. Je me disais ce matin, je regardais des affiches. Toi qui vas beaucoup aux spectacles, aux concerts. Et la restitution, c'était en 1997, il y a bientôt 30 ans. Je voyais les affiches de spectacles. On est quand même à la porte de la Chine, mais on trouve toujours une programmation d'opéra, de notre musique classique à nous, hein, des opéras.
Il y a une vie culturelle très, très occidentale.
Très occidentale.
Hong Kong. Il y a un orchestre symphonique parmi les meilleurs du monde aujourd'hui. Il y a un orchestre Sinfonietta, il y a des orchestres de chambre pour la musique classique, il y a des orchestres de jazz aussi. Il y a beaucoup de spectacles d'artistes internationaux qui passent par Hong Kong, soit de variété, soit de musique, je dirais, plus sérieuse. Il y a un opéra ici, donc avec des présentations plusieurs fois par année. Un ballet qui est de très très haut niveau, qui inclut beaucoup de danseurs qui viennent de Chine dans les solistes, mais excellent niveau, avec de très beaux spectacles. Et ils commencent à se produire à l'étranger, d'ailleurs.
Ah ouais.
Come here, rich shop boy. See me in the street. Chop, chop, chop. I have a
guide à Hong Kong. Nous sommes à un peu plus de 12 heures de vol de Paris et un peu moins de 10 000 km. Pour cette première émission, vous êtes conviés au concert gratuit donné chaque année en novembre, en plein air par le Hong Kong Philharmonique. Je vous invite à apporter votre panier pique-nique. Nous avons rendez-vous avec Bénédicte, le directeur général, qui ne parle pas encore français, mais ça va s'arranger.
Follow the guy in Hong Kong. Suis le guide à Hong Kong.
Welcome to the Hong Kong Philharmonic Orchestra's annual outdoor concert, Swire Symphony Under the Stars. 今年的音乐会会在港乐和太古 Trust Tomorrow 的 Facebook 专页, 港乐网站, YouTube 平台, 香港电台网站作全球直播, 亦会在港台电视 32台 同步播放, 欢迎大家开心share给亲戚朋友.
Hello, Benedict.
Bonsoir.
I speak German, you speak French. Maybe we can try this. Je vais parler allemand et vous parlez. On va essayer de se débrouiller. But it's a pleasure to meet you here in Hong Kong and for this Symphony Under the Stars. Pour ce concert, Symphonie sous les étoiles, Bénédicte, vous êtes le chef exécutif de l'Orchestre Philharmonique de Hong Kong. Et une fois par an se déroule ce concert en plein air, sous les étoiles. Et c'est vraiment, alors là on ne les voit pas encore, mais la soirée sera très très belle. On est au cœur de Hong Kong, sur l'île de Hong Kong, avec les gratte-ciels, toutes les lumières autour de nous, et puis la scène. On attend près de 20 000 personnes ce soir hein, pour ce concert. Mais expliquez-nous le principe de ce concert, qui est un concert gratuit pour la population de Hong Kong et les touristes aussi.
It's free for everyone, and
donc c'est gratuit pour tout le monde.
Then the orchestra does it since many years.
Donc l'orchestre le fait depuis longtemps.
And it's really a gift, a cadeau pour l'audience.
Donc c'est un cadeau pour le public.
Yeah. It's connected with our main sponsor, Swire.
Donc c'est grâce à notre sponsor principal, Swire.
It's of course very very expensive.
Bien sûr, ça coûte très cher, of course.
To put a concert on like this, but the orchestra really likes it.
Mais l'orchestre prend beaucoup de plaisir à le faire.
We would like to know how many of you are coming to Swire Symphony Under the Stars for the first time.
And how many of you are coming back for more?
Oh, even more! Welcome back! 其实我们今天是看到全场都是坐满了观众，非常之开心。
Avant de revenir au programme du concert et puis de raconter comment ça se passe, on va dire quelques mots sur l'Orchestre Philharmonique de Hong Kong. J'ai lu que cet orchestre, jusqu'en 1957, s'appelait l'Orchestre Sino-Britannique.
Yes, right. So the orchestra became professional in 1974.
Donc l'orchestre est devenu professionnel en 1974.
Of course, it was a little bit smaller than it is now.
Et l'orchestre était plus petit que ce qu'il n'est aujourd'hui.
To think on the historic dimension.
Quand on repense à l'histoire et à sa dimension internationale.
It was the first professional arts organization in Hong Kong.
C'était donc la première organisation d'art professionnelle à Hong Kong.
It means that the classic music is still quite new here in Hong Kong.
La musique classique, finalement, c'est assez récent à Hong Kong. Yeah.
And the orchestra made a lot of progress in the last 50 years.
Et l'orchestre a fait beaucoup de progrès au cours des 50 dernières années.
Yeah, yeah. Our music director, Jaap van Zweden, who is now music director since 10 years of the orchestra.
Donc le chef d'orchestre, Jaap van Zweden.
Il est from Netherlands.
Donc il vient des Pays-Bas et pas de Suède. Hein.
And this week he is in Paris. He is conducting Orchestre National de France.
Ah, donc et là, pendant ce concert ici, il est à Paris, il conduit et dirige l'Orchestre National de France. Hein. So, donc il a fait faire beaucoup de progrès à l'orchestre.
Absolument. In 2019, the orchestra received the Kromfon Award, which is a major award in the classical music.
Et donc en 2019, l'orchestre a obtenu le Gramophone Award, yeah, qui est une récompense majeure hein, dans la musique classique.
So it's really a wonderful orchestra.
Donc c'est un super orchestre.
Excellent orchestra, certainly one of the best orchestras in Asia.
Donc c'est sans doute l'un des meilleurs orchestres en Asie, qui joue beaucoup en Asie, mais en Australie aussi et en Europe également.
orchestre de 96 musiciens.
Full size symphonic orchestra. Yeah.
Voilà, c'est ça. Pour un orchestre symphonique, c'est un gros orchestre, effectivement. L'idée à travers ce programme, et ce soir en plein air, c'est de donner le goût de la musique aux Hongkongais et de les amener vers les concerts. Yeah,
yeah. It's a very, usually a very popular program.
So donc c'est un programme très populaire, très accessible.
Musique, not very long pieces and
donc des morceaux assez courts. Pieces, yeah, yeah. Ce soir, on va jouer des musiques de John Williams, le compositeur des films de Steven Spielberg. Yeah. On va jouer George Gershwin, Porgy and Bess, Rhapsody in Blue. Yeah. Leonard Bernstein, yeah. West Side Story.
Yeah, part of the West Side Story. The melodies people know.
Donc des morceaux que connaît
really
le public.
Enjoy, yeah.
Pas dans un parc, mais on a déroulé des pelouses ici.
Hein. Here are fairs and races and everything. So
on fait plein de choses ici, donc des courses, etc.
Yeah,
ouais.
Yeah.
Alors un mot vous concernant, Bénédicte. Il faut dire que je viens de Lorraine, je viens de Metz.
Ah,
vous connaissez bien la région parce que vous avez travaillé donc et dirigé, non pas conducteur, non pas le chef d'orchestre, mais vous avez assuré la direction administrative des orchestres de Luxembourg et de Sarrebruck-Kaiserslautern. Yeah, yeah. Vous étiez frontalier du département de la Moselle d'où je viens.
I like this area a lot actually, and Metz is now a very interesting city.
Donc j'aime beaucoup cette région, et Metz est une ville tout à fait intéressante.
Et voir Luxembourg avec la Philharmonie.
Et la Philharmonie de Luxembourg.
Une cité avec beaucoup de culture. Ça, on va essayer ici aussi à Hong Kong.
D'apporter ça.
Bien sûr, c'est une cité financière de l'argent, mais aussi, peu à peu, on a aussi les musées, les beaux-arts et aussi la musique. Ça, c'est très bien.
Mais Bénédicte, it's a miracle. Vous parlez français.
Merci.
C'est revenu.
C'est revenu, oui.
Symphony Under the Stars, Symphonie sous les étoiles, c'est le concert gratuit donné chaque année mi-novembre par le Hong Kong Philharmonic Orchestra face au port sur l'île de Hong Kong. Nous sommes encore dans l'ambiance du concert et avec Bénédicte Faure, le directeur général de l'orchestre.
Je suppose que vous connaissez celui qui dirige l'Orchestre National de Metz Grand Est. Vous connaissez David Rayland.
Il était ici il y a deux semaines, il était ici à Hong Kong.
Maintenant, oui, c'est ça. Il était à Hong Kong et il a dirigé l'Orchestre de Macao.
Yeah, exactement. Et je connaissais aussi bien Gustavo Gimeno de Luxembourg et à Sarrebruck, Pieter Inkenen, qui j'ai juste rencontré à Séoul, où il a aussi un orchestre, le KBS. Alors, le monde de la musique, c'est petit.
Ça. Et alors, ce week-end, en Moselle, nous avons un musicien virtuose, un pianiste mosellan qui est jeune, mais qui va jouer demain à Macao, qui s'appelle Jonathan Fournel.
Je connais le nom. Maintenant, les artistes viennent ici. Ça, c'est bien dans la région. Et ce n'est pas seulement Hong Kong, c'est aussi what is called the Greater Bay Area, with Guangzhou, Shenzhen, Fushan. Excellente salle de concert là-bas, et vraiment on essaie d'améliorer la vie culturelle ici.
Oui, c'est ça, c'est une région finalement transfrontalière. C'est un peu comme d'où vous venez finalement, où vous êtes passé. C'est un peu comme le Luxembourg, la France, la Belgique, l'Allemagne. C'est un peu la même chose ici avec la Chine et Macao et Hong Kong.
On apprécie les avantages de l'Europe parce qu'ici, on a toujours les frontières, il faut avoir des visas pour traverser. Ah oui. Ça, c'est le problème. Alors, si on vient de l'Europe, ça, c'est un rêve de traverser d'un pays, d'un autre.
Bien sûr, oui.
What is it?
ce soir, les spectateurs viennent, alors certains ont apporté des sièges, et ils s'installent sur l'herbe. Ils ont apporté à manger aussi et à boire.
Oui. Et,
oui, c'est comme
ça. Des vins français.
Des vins français ce soir.
Absolument.
Parce qu'on peut boire du vin aussi pendant
et
le concert.
Du fromage et tout ça, oui. Ah oui, on a tous ici, toute la cuisine. Et...
Donc vous êtes le chef exécutif depuis 2019.
Cinq ans maintenant. Alors, juste avant la pandémie. C'était un peu dur les dernières années, comme partout. Mais maintenant, c'est ouvert et on peut travailler. J'ai juste revenu de Shanghai ce matin. C'est bien de voir la région. Et il y a un très bon concert à chaque soir, comme ça.
Ah ouais. Et là, ici, il y a une grande scène dehors, sous les étoiles, avec tous les gratte-ciels autour de nous.
C'est le chef de ce soir, Leo Cookman. Il est aussi connu en France parce qu'il est beaucoup avec l'orchestre à Toulouse. Leo Cookman est très jeune, très, très bien chef d'orchestre. Le son très bien. On a un audio spécialiste d'Allemagne ce soir.
Deutsche Qualität.
Yeah, parce qu'il faut les gens professionnels et c'est quand même c'est petit ici. Alors si on a besoin de des spécialistes, ils viennent de l'extérieur. C'est comme les musiciens. On a 50 personnes.
Ah oui, c'est ça. Je voulais vous demander.
50 personnes des musiciens viennent de l'Europe ou des États-Unis et 50 d'Asie. Surtout les cordes, les instruments. Les musiciens de cordes
viennent d'Asie.
Viennent d'Asie parce qu'ils
sont réputés.
Ils sont réputés, très bons, techniquement très bien. Alors de Corée, de Chine, de Hong Kong même, de Japon et les autres, le cuivre, les bons viennent d'Amérique ou de l'Europe.
Je lisais ce que vous disiez, c'est que pour les jeunes de Hong Kong, même s'ils apprennent la musique, parfois les familles les découragent de continuer pour devenir professionnels. Parce que c'est difficile et les parents disent plutôt de faire autre chose. Et il faut que des jeunes se tournent vraiment vers la musique professionnellement ici à Hong Kong. Il faut que Hong Kong fasse naître des musiciens professionnels.
Oui, but isn't that the same in Europe?
Je sais pas, I don't know.
Les parents, usually they say, enjoy music, but don't make it your profession.
C'est ça, donc on dit plutôt, voilà, faites de la musique pour le plaisir.
Mais ici, on a quelques universités qui produisent les musiciens professionnels et normalement ils viennent à l'extérieur pour finir les études, pour faire le master en Europe ou aux États-Unis. S'il revient, il peut faire les auditions pour l'orchestre philharmonique, bien sûr, mais ce sont toujours des compétitions internationales pour les, comme toujours.
Mais il y a aussi de très bons musiciens en Corée, non? En Corée du Sud.
Ah, il y a. Très bon, très bon.
Très bon,
très bon,
hein?
Très bon, très bon qualité. Oui.
Madame Cochon, merci beaucoup, Bénédicte.
À vous, merci à vous.
Et je suis ravi. You know, he speaks French. It's a miracle.
C'est plus facile que toujours traduire. J'ai pas beaucoup d'occasions de parler français, alors.
De ce premier Suivez le Guide à Hong Kong. Après le concert sous les étoiles, nous retrouvons Jacques Boissier, le French gastronome, pour une découverte des produits locaux qui vous séduiront ou pas. On
on vient de passer le Beaujolais nouveau. Tous les Français de Hong Kong ont fêté le Beaujolais nouveau.
Ou presque. J'ai dû louper quelque chose.
Ah, mince, probablement, parce qu'on ne sait pas s'il a un goût de banane ou de etc.
Le Beaujolais nouveau était un événement extrêmement important à Hong Kong il y a 25 ans. Il y avait des importations, il y avait, je crois me souvenir qu'il y avait un cargo plein, un 747 plein qui arrivait sur Hong Kong juste avant le Beaujolais nouveau. Aujourd'hui, comme partout, le Beaujolais nouveau a perdu de son effet festif. Ça reste quelque chose pour les Français qui sont ici.
C'est un prétexte.
Oui, pour les Français qui sont ici, c'est un prétexte. Mais aujourd'hui, les Chinois, les Beaujolais nouveaux, ça ne les intéresse plus dans le restaurant.
Je pensais à ça, donc le Beaujolais nouveau. Mais sinon, on est donc à la mi-novembre. Ça y est, la musique de Noël est partout. Hein. Les chants de Noël dans tous les centres commerciaux extérieurs. On n'entend que Jingle Bells. Hein, et oui. C'est parti jusqu'à Noël comme ça.
Et avec des décorations magnifiques dans tous les shopping malls. C'est absolument superbe. Et les gens pensent à Noël, alors qu'il fait encore chaud. Là, on est presque en chaussettes.
C'est dans plus d'un mois.
Oui, mais ça va se préparer. Noël ne représente rien pour les gens ici. C'est purement chrétien et c'est pas de culture chinoise. C'est le Nouvel An chinois qui est important pour eux. Mais c'est l'occasion de fêter, de sortir, puis d'avoir ces belles décors, faire des achats.
Ouais. Ah oui,
parce que tout est organisé sur le shopping ici. Ouais. Il faut faire marcher le commerce.
Hong Kong, la ville de shopping. Et j'en arrive où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, Noël, période de Noël, et comme à Londres, comme à Broadway, on va pouvoir aller assister à ce ballet donné partout dans les pays anglo-saxons, surtout pour Noël. Bah, Casse-Noisette, j'ai vu les affiches de Casse-Noisette.
Oui, tous les ans, le ballet de Hong Kong joue Casse-Noisette pendant 5 ou 6 jours au moment de Noël. Très très populaire, tout le monde y va avec les enfants. Alors, ils changent un petit peu le ballet tous les ans, mais les mêmes y vont. C'est l'événement que l'on fait en famille. C'est une tradition.
Chaque année, on va voir Casse-Noisette.
Voilà. Donc il y a à peu près, une dizaine de représentants du ballet.
Donc quand ils le changent un peu, sinon ça serait un peu trop Casse-Noisette d'une année à l'autre.
C'est douteux ça.
Alors là, on est face à des produits j'ai beaucoup de mal à identifier.
On est dans un magasin assez surprenant, vraiment très très traditionnel, où tu vas trouver des tas de bocaux sur le mur avec des abalones. Les abalones sont des ormeaux qui coûtent très très cher, recherchés dans la cuisine chinoise.
C'est pas aphrodisiaque, ça n'a pas des propriétés aphrodisiaques, non.
C'est un peu caoutchouteux, mais bon, ça vaut parfois très très cher. Certains d'entre eux coûtent une petite fortune suivant leur origine. Tu as des nids d'hirondelles qui sont utilisés pour faire des desserts. Donc c'est séché, ils sont lavés.
Ah, pour les desserts, c'est pas pour les soupes?
Tu peux faire de la soupe et des desserts aussi sucrés avec. Là, tu as des petits ailerons de requin.
Les nids d'hirondelles, c'est très cher aussi?
C'est très très cher.
Très cher.
Il y en a de moins en moins dans le monde. Aujourd'hui, ils viennent principalement d'Indonésie.
Ouais, moi, j'ai des vagues souvenirs, mais c'est vraiment bon, les nids d'hirondelles?
Ça donne une texture. C'est pas pour le goût, c'est la sauce qui va donner le goût. Et c'est la texture qui est... De fait, comme les ormeaux, c'est la même chose. C'est le produit lui-même, parce que ce sont des produits séchés, les abalones qui sont vieilles, c'est pas le goût du produit, c'est la texture qui va être...
Si on parle de texture, tu m'as fait goûter, Jacques, il y a quelques jours, lors d'un dîner, un produit qu'on ne déguste pas en France. On est prêts, nous, à manger des escargots, etc., des cuisses de grenouilles et tout. Mais là, tu m'as fait goûter de la méduse.
Oui, alors la méduse,
la texture aussi.
Oui, tout à fait. On va retrouver ça dans la cuisine, surtout cantonaise. Et à l'entrée, à l'apéritif, dès qu'on arrive à table, c'est un des premiers plats que l'on sert.
Ah, petite méduse.
Sur des tranches, des filaments de la méduse est découpée en morceaux. C'est une méduse particulière qui est élevée, pour ça. Donc très propre, mais pas dangereuse. Et puis ce qui est important, c'est là aussi, c'est la sauce qui va avec, qui va donner le goût.
Sinon, c'est un peu, comment dire, au niveau...
caoutchouteux.
Un peu caoutchouteux, oui aussi.
Mais caoutchouteux, mais que l'on peut mâcher facilement. Alors que la
ballonne,
c'est plus...
plus ferme.
Pneu, oui,
plus du pneu. Ouais. Ouais. Donc de la méduse, je ne sais pas si en France, on avait des amis, on leur dit, tiens, ce soir, je vous ai préparé, réjouissez-vous de la méduse.
Mais écoute, tu pourras essayer à Noël. Je pense que c'est le futur plat de Noël en France, la méduse.
Bon, là, tu vois aussi des ailerons de poissons, là, de requins. Ce sont des petits requins. Alors ça, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. La protection des requins se développe dans le monde et on trouve de moins en moins d'ailerons de requins. Ils font partie de la tradition culinaire chinoise. On fait des soupes avec, principalement. Là aussi pour la texture, mais bon, on va voir de moins en moins. Là, tu as des goji. Goji, sont des petits fruits rouges que l'on trouve en France également, enfin que l'on consomme maintenant en France un petit peu, qu'on retrouve très fréquemment dans la cuisine chinoise, mélangé à des soupes, dans des soupes. Ça a un effet santé. Tous les plats, tous les ingrédients chinois ont un rapport avec la santé. La santé, c'est hyper important. Il y a les plats à froid, il y a les ingrédients froids et les ingrédients chauds. Et suivant, si tu as un rhume, ben, il ne faut pas manger d'ingrédients froids. Ou si tu as autre chose, il faut manger des ingrédients chauds. Il faut bien connaître... Donc,
cuisine santé.
Cuisine santé. Ouais.
Regarde les zéros, les prix donc des nids d'hirondelles.
Elle varie, le prix que l'on voit affiché, c'est entre 80 € et puis là 1000.
Mais c'est pas au kilo, hein.
150 €, non, c'est pas au kilo. Ça doit être 4 ou 5.
Ah ouais. Mais alors plus à gauche, c'est encore plus cher là, des prix autour de.
Ça, 4... ce sont les abalones.
Ah, les abalones autour de 5000, hein.
Ouais, ça peut monter. On peut monter à 10 000 €, 20 000 € le kilo hein, sur les abalones.
Wow.
Si elles sont très bonnes, viennent de régions spécifiques.
Toi, tu apprécies ?
Non. J'apprécie la sauce, mais pas l'abalone elle-même. Ah. Uh-huh. Je préfère la jeune abalone, mais on en trouve très peu. Ou l'ormeau français, qui lui a vraiment du goût, mais c'est petit. Là, sur des animaux beaucoup plus grands.
Ouais. En tout cas, il y a du monde.
Très amusant aussi, un produit qu'on n'a pas l'habitude de consommer chez nous, c'est la vessie de poisson.
Ça ressemble un peu à...
Là, c'est une vessie jeune, elle est gonflée.
Ah oui.
Là, tu as des vessies plus sèches, qui peuvent être anciennes. On fait de la soupe avec, et c'est très bon pour la santé. C'est pour ça que je ne suis jamais enrhumé.
C'est vrai, donc tu te nourris souvent de vessies de poisson.
Non, mais ça fait partie à certains moments des soupes que l'on va boire.
Mm-hmm. Ce sont des vessies. Certaines ressemblent un peu à un légume racine, comme
ouais,
ça.
Ouais.
Ou à un instrument de musique, je ne sais pas. Mais... Toi, tu utilises aussi la médecine chinoise.
Oui, il y a de la vérité, comme on en avait. Ça me rappelle la médecine de ma grand-mère, pour beaucoup. Beaucoup de plantes. Si j'ai un rhume, je vais plutôt essayer de me soigner par les plantes et des fruits.
Plutôt que des antibiotiques.
Voilà, plutôt de ne pas prendre certains produits, ne pas boire de thé si je tousse. M'adapter à suivre un peu ce que les Chinois font et ça fonctionne assez bien, c'est de la médecine douce.
Les œufs centenaires, tu apprécies ?
Oui, c'est très bon, un œuf centenaire. Alors, ils ne sont pas centenaires.
Ils ne sont pas centenaires.
C'est un mythe. Et ils sont simplement conservés dans des jarres avec un liquide qui va rentrer dans l'œuf parce que l'œuf absorbe. Ensuite, on le cuit, c'est un œuf dur.
Qui a une couleur très foncée. Hein.
Très foncée. Évidemment, le liquide dans lequel il est conservé n'est pas très bon à nos goûts. Donc, il faut rajouter autre chose pour qu'il soit consommable. Mais c'est parfaitement bon. Hein. Alors aussi, dans les traditions, tu as des champignons. Alors là, tu vois des champignons de base qui sont très bien préparés, sont des cadeaux en même temps. Là, tu vois l'emballage. Si je vais chez un ami chinois, je peux très bien lui emmener une boîte de champignons séchés. Ce sont des champignons de valeur. Il sait que c'est un beau cadeau.
Oui, c'est ça. On n'est pas obligé d'apporter des chocolats.
Non. Non, non. Séchées de différents types, des moules fumées et séchées. Alors ça, c'est très fort en goût. On va retrouver ça aussi dans des soupes, des petites coquilles Saint-Jacques, toutes petites.
Séchées aussi.
Séchées et que l'on va utiliser.
On dirait des pétoncles. Hein.
Oui, alors celles-ci sont des pétoncles. plus des pétons, mais on va retrouver des coquilles Saint-Jacques. Et ça va être utilisé également dans des soupes, pour donner de la texture à la soupe.
Donc on peut en déguster dans les restos ici, sans le savoir forcément.
Les magasins que l'on est en train de voir, là, sont des magasins où les restaurateurs viennent acheter, les restaurateurs traditionnels. Alors ils vont acheter en plus grosse quantité, là c'est la partie détail, mais c'est le même négociant qui tient cette boutique qui va également alimenter les restaurants.
Oui, c'est ça. Donc ce qu'on voit là, ce sont des magasins qui vendent vraiment des produits séchés.
Oui, c'est principalement séché, très très peu de liquide et rien de frais. Il y a d'autres gens qui sont spécialisés en légumes, qui vont être spécialisés en poissons vivants. Donc il y a un marché, il y a une assez grosse pêche à Hong Kong de pêche dans les mers de Chine. Ensuite, ils stockent ces poissons dans des bassins et ils amènent les poissons vivants dans les restaurants. Parce que les gens veulent voir le poisson vivant qu'ils vont consommer.
Pour faire connaissance.
Oui, pour s'assurer de la fraîcheur. Ouais. En réalité, ce n'est pas une très bonne solution parce que les tanks dans lesquels ils sont conservés ne sont pas forcément propres.
Ah.
Donc sur le plan hygiène, ce n'est pas l'idéal. Je pense que le filet tel qu'on fait tuer le poisson, l'abattre, les fileter et le servir dans un restaurant est beaucoup plus hygiénique que ces poissons que l'on voit dans des bassins. Alors c'est joli, on se dit il est frais, mais l'eau du bassin n'est pas forcément propre.
Je ne sais pas si ça se fait en Hong Kong. Moi, je me souviens avoir vu dans je ne sais plus quel magazine télé, mais c'était au Japon, je pense, de ce repas autour de la table de ces Japonais qui mangeaient un poisson, effectivement, mais qui étaient encore vivants quand ils étaient en train de le manger. Hein.
Oui, alors normalement, c'est interdit maintenant au Japon.
Ah oui.
Ça se faisait en effet. Ça, ou la langouste vivante, tu prends la langouste, et je l'ai vu aussi à Hong Kong, on prend la langouste vivante, on la met sur une planche, on enfonce un clou dans la tête pour anesthésier la langouste, on casse la carapace, on verse un petit peu d'alcool dessus et on mange la chair vivante, enfin la chair non cuite de la langouste ou du poisson. On fait la même chose avec le poisson. Le poisson, on l'assomme sur la tête de façon à ce qu'il n'ait plus vraiment de réaction, enfin, en théorie. Et puis on l'ouvre, il bouge encore. On coupe un morceau de viande ou alors l'autre solution, c'est avant de le tuer, on lui fait boire de l'alcool et il devient...
On soule le poisson
et ça change le goût de la chair du poisson très très vite. Parce qu'évidemment, le système sanguin va faire que l'alcool va partir très, très, très vite dans la viande. Alors maintenant, ça ne se fait plus beaucoup.
Ça se fait plus beaucoup, ouais.
Ça se fait dans des endroits assez discrets.
Ah, c'est ça. Comme ça me rappelle Robin, et le canard était toujours vivant, et le poisson était toujours vivant.
Oui.
Suivez le guide avec Jacques Boissier, un Français à Hong Kong depuis le milieu des années 90, un Français qui a très peu vécu en France et qui a importé à Hong Kong des produits d'alimentation haut de gamme. Nous sommes sur l'île de Hong Kong.
Welcome to Hong Kong. Bienvenue à Hong Kong.
C'est très amusant ici, c'est qu'à côté du magasin qui vend ses produits alimentaires de luxe, on trouve... Un petit magasin de bricolage.
Ah, c'est un magasin.
C'est un magasin où ils font de la réparation de tout et de rien. Tout est mélangé, ça c'est très traditionnel chinois.
C'est tout petit, c'est très bordélique. Hein. C'est peut-être rangé, mais...
Alors c'est rangé pour... ça doit être un vieux monsieur qui travaille là. Pour lui, c'est rangé et pour nous, c'est
incompréhensible. Nous, on dirait c'est une espèce de foutoir, comme ça.
Oui, on ne sait pas très bien ce qu'il y a là-dedans. Il y a des vieilles télés, il y a du câble électrique... font de la récupération et du recyclage de produits électriques et plomberies.
Il y a des quartiers vraiment réputés pour tel ou tel produit à Hong Kong où on trouve tout partout. Enfin, je suppose qu'il y a le quartier, je sais pas, des antiquaires, où il y a des quartiers qui sont attribués.
C'est tout à fait, c'est par quartier. Là, on est dans un quartier où on va retrouver beaucoup de magasins avec ces ingrédients culinaires traditionnels chinois et produits pharmacie aussi. Après, tu as les quartiers, si je veux acheter... du matériel sanitaire. Il y a deux quartiers en ville où dans la rue, il n'y a que des magasins sanitaire. Ils vendent tous la même chose, mais on a le choix.
Carter des choses, des magasins de chaussures, des chaussures,
Équipement de cuisine. Par exemple, il y a une rue à Hong Kong, si un chef a besoin d'équipement pour sa cuisine, il va dans cette rue à Kowloon.
Et dans beaucoup de pays, c'est pas le cas en France, mais dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Il y a une, comme ça, les
spécialités.
Par spécialité, ouais. Un regroupement par spécialité. Hein.
Dans les quartiers qui s'occidentalisent, ça disparaît un petit peu. Parce que les gens veulent voir un supermarché, veulent voir des magasins différents et veulent que ce soit proche de chez eux. La culture est en train de changer un petit peu.
Si on parle des magasins Hong Kong, tout ce qu'il y a beaucoup, ce sont les marques.
Alors ça, c'est vraiment dans les shopping malls modernes, occidentalisés.
Quand je dis Hong Kong ou à Kowloon en face.
Oui, on va retrouver là toutes les marques de luxe. Toutes les grandes marques, et principalement françaises, c'est évident, la France est bien en avance là-dessus. Et puis, il y a des shopping malls qui vont être spécialisés sur des marques plutôt de second rang. Donc, ça dépend du quartier où ils sont installés. On va retrouver Hermès, Chanel, Louis Vuitton, vraiment dans les beaux super malls. Et puis, on va retrouver des marques de sport, d'habits de tous les jours, dans d'autres malls, dans d'autres quartiers.
Alors bon, et sinon c'est pas typique de Hong Kong, c'est une tendance, j'ai l'impression, mais il faut vraiment afficher la marque. Hein.
Ah bah c'est le but de la marque, hein. Si je porte du Chanel et que personne ne le sait, je vois pas l'intérêt. C'est un peu la démarche des gens ici, ouais.
Gros.
Ouais. Il faut s'afficher, il faut afficher sa richesse. Alors, sachant qu'à Hong Kong, les gens ont des tout petits appartements où ils ne reçoivent jamais chez eux, donc on peut pas mettre en valeur les choses que l'on a. C'est à l'extérieur, ce sont des signes extérieurs de richesse. Tu vois des très grosses voitures. Et ce que l'on
Bentley, porte... je voyais, il y en a plein ici.
Voilà, des Ferrari, il y a de tout. Et
Porsche, bon, c'est déjà une voiture...
C'est une voiture
c'est
lambda
commun,
ici. C'est commun. Mais on s'affiche par la voiture et puis ce que l'on porte sur soi. La montre,
donc on a une
les
Rolex.
Vêtements et le sac. Ouais. Et la femme encore plus parce qu'elle représente la richesse de son mari. Hein. Le mari a envie d'être accompagné d'une femme qui est dressée de tous ses produits de marque les plus chers possibles et les bijoux les plus chers possibles pour montrer qu'il est riche. Statut social se voit comme ça, non pas par le logement.
Voilà, et on va acheter des chaussures, par exemple, je cite encore une marque chez Louboutin, comme on aurait pu aller chez Bata.
Oui, alors il y a toujours du Bata, mais ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont acheter. Tout le monde n'achète pas du luxe quand même à Hong Kong.
Depuis que tu es à Hong Kong, donc toutes ces années à Hong Kong, tu es arrivé en quelle année, Jacques, à Hong Kong?
Je suis arrivé en 1993.
En 93? Ah oui, donc on est avant la restitution. Oui. Donc tu as vécu ce temps, ce moment de la restitution?
Absolument, et c'était un moment historique, et on aime bien vivre le moment historique.
Tu y as assisté, tu étais...
J'étais à Hong Kong, il pleuvait à torrents. J'étais chez moi, regarder entre la télévision et au travers de la vitre les événements qui se déroulaient en ville. Ouais.
Mais dirais-tu qu'il y avait une émotion enfin, à ce moment-là?
Alors, il y avait une forte émotion, mais des deux côtés. Hein. C'était un cap qui se passait. On a vu le drapeau britannique être baissé, le drapeau chinois se lever le lendemain avec une grande fête, feu d'artifice le lendemain, etc. D'abord, c'est une très belle cérémonie, beaucoup d'émotions. Des deux côtés, de l'ancien qui partait et des nouveaux qui arrivaient.
Est-ce que la communauté britannique, à ce moment-là, était réduite? Est-ce que beaucoup de citoyens britanniques sont partis au monde ou pas?
Oui, ce que l'on a vu, c'est beaucoup de citoyens britanniques qui... Ils avaient une particularité, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de permis de travail ici. Donc,
après,
ensuite, ils ont besoin... Donc, il y avait des gens qui occupaient des jobs qui auraient dû être occupés par des locaux, qui n'avaient pas besoin de permis de travail pour ça, qui sont partis. On s'est retrouvés après le handover avec un équilibre entre les différentes nationalités sur les compétences et les niveaux des gens professionnels.
Y a-t-il des personnes qui disaient après, bon, c'était mieux avant ou...
Je ne rentrerai pas
sur ça. Non, mais est-ce qu'il y a des différences vraiment? Tu n'étais pas si longtemps que ça, de toute façon, durant la période britannique à Hong Kong, mais c'est vraiment une autre façon de vivre ou pas plus que ça?
Moi, la vie n'a pas changé.
La vie n'a pas changé.
Non, non. La vie est toujours la même. Hong Kong a continué de se développer depuis 1997.
Dirais-tu que tu ne peux pas te perdre à Hong Kong? Tu te repères dans chaque rue?
Alors, je me repère dans les quartiers, mais il y a des endroits où je me perds. Encore.
Quand même.
Oui. Taxi, on va traverser là. On va aller là dans la partie moderne, aller au Four Seasons après ces quartiers chinois et tu entends les trams autour de nous, fais attention de ne pas faire écraser. Ils vont pas très vite, ils ont encore ce vieux bruit. Parce que ce sont vraiment des vieilles.
Ils sont d'époque, hein.
Ah oui, ils sont d'époque.
Là, ils sont pas repartis au Royaume-Uni. Non.
Des nombreux taxis traditionnels de Hong Kong rouges avec un chauffeur généralement mal aimable.
Ah oui,
qui fait semblant de ne pas comprendre où on va. Il y a encore des taxis, surtout le week-end, avec des personnes très âgées comme chauffeurs qui ont besoin d'un complément de revenus, donc qui vont travailler 2 ou 3 jours par semaine.
Donc des retraités
qui travaillent 2 ou 3 jours dans la semaine ou juste le week-end pour gagner un peu d'argent, sachant que les jeunes, eux, ne veulent plus de week-end. Je pense que c'est le même problème partout dans le monde. Oui, je ne sais pas si tu comprends le système des lignes jaunes que l'on voit au bord du trottoir.
Je ne savais pas qu'il y avait une lecture des lignes jaunes.
Voilà, et quand je suis arrivé à Hong Kong, je ne comprenais pas pourquoi les taxis ne voulaient pas s'arrêter et me prendre. Quand il y a 2 lignes au bord du trottoir, les véhicules n'ont pas le droit de s'arrêter. Et lorsqu'il n'y a qu'une ligne, ils ont le droit de s'arrêter. Et s'il n'y a pas de ligne du tout, on peut même se garer malhonnêtement.
Ah oui. S'il attend un taxi,
personne va lui dire.
2 lignes jaunes, il peut passer la journée.
Voilà, et personne ne va lui dire.
Cela dit, quand on a l'air un peu paumé, les Hongkongais viennent demander si on est...
Ils sont très gentils, ils sont très, très gentils. Là, on a vu l'environnement changer dans les dernières années. Les gens font beaucoup plus d'efforts pour accueillir les étrangers et les guider. Il y a 30 ans, c'était pas tout à fait le cas.
Ça m'a surpris.
Oui. C'était rude, il fallait se débrouiller tout seul. Et il fallait se battre pour rentrer dans un taxi, parce qu'on se battait en quelqu'un. Vous étiez en tête de queue, enfin d'attente, et vous montez dans le taxi. Il y avait quelqu'un qui courait, qui vous bousculait, qui montait dans le taxi. Ça se fait plus maintenant.
Oh, c'est vrai, moi je me souviens même dans les rues, quand il y avait beaucoup de monde, la bousculade, il fallait jouer des coudes. Hein.
Oui, c'est terminé ça. Les gens sont civilisés. Il y a eu des campagnes de lancer pour
de
ça.
Sensibilisation.
De sensibilisation. Des commerçants, on dirait, il faut être plus accueillant avec des touristes qui vous font vivre, en réalité.
Et comme les Hongkongais, je ne sais pas, mais les Chinois sont disciplinés quand même, non? Non, pas?
Oui, alors c'est pareil, c'est quelque chose, même en Chine, c'est quelque chose de récent.
Oui. Je me souviens au moment de l'expo.
Pas naturel.
Oui, je me souviens au moment de l'expo à Shanghai, il y avait une campagne pour demander aux Chinois de ne pas cracher, par exemple.
Voilà. Avant, tout le monde crachait partout, c'était le cas aussi à Hong Kong. Donc il y a de l'éducation qui se fait petit à petit. On est dans un environnement beaucoup plus civilisé.
Voilà, c'est ça. Donc on ne crache pas à Hong Kong non plus. Hein.
Il n'y a pas beaucoup de taxis. Hein.
Et on peut tenter le tram? Non, ça ne marche pas. C'est
non,
pas,
ça n'a pas du bon, pas du tout de... bon côté.
Et les 60 ans du mandarin, ils ont leur...
Ils ont le tramway. Tout le monde utilise le tramway pour la publicité. Ouais. C'est... Les tramways se promènent d'ouest en est sur l'île et c'est de la publicité ambulante. Et ça va pas trop vite, les trams vont pas très vite, donc on a le temps de voir la publicité.
Et nous retrouverons Jacques Boissier dans la prochaine émission à Hong Kong, mais aussi l'historique Palace, le mandarin oriental sur l'île de Hong Kong et son French sommelier. Fin de ce premier Suivez le Guide à Hong Kong. Vielen Dank, Bénédicte Faure. Merci, Émilie. Oui, relations presse au Hong Kong Philharmonique. Merci aussi, Émilie, pour le prêt de ta voix. Et grand merci, Jacques Boissier. Minishker, Pierre Oteza pour le contact avec Jacques. Réalisation, Roman Feocchio. Les sites internet hkphil.org, Hong Kong Philharmonie, et discoverhongkong.com.
Hong Kong in. See you soon in Hong Kong. A bientôt à Hong Kong.
It's a story of a very unfortunate colored man who got arrested in a no Hong Kong. Got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gong. And now he's bopping the piano just to raise the price of a ticket to the land of the free. Well, he says his home in Frisco where they send the rice, but it's really in Tennessee. That's what he says. I need someone to love me. Need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. I need someone to lend me a $50 bill and then I leave Hong Kong far behind me. For happiness once again. Want someone to believe. I've a yen to see that bit again. But when I try to leave, sweet Opio won't let me fly away. Hey, I need someone to love me. Need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Sarah Brunel.
Rémi Brague est philosophe, il est un grand spécialiste de philosophie ancienne et il a beaucoup de choses à dire, à nous dire sur notre époque. Il vient de recevoir le Grand Prix catholique de littérature 2024 pour l'ensemble de son œuvre. Il est notre invité aujourd'hui dans Dialogue.